Aujourd'hui, à Rencontre spirituelle, il sera question du bienheureux Pierre Donders, un rédemptoriste absolument phénoménal. C'est vraiment l'une des vies les plus étranges, les plus étonnantes, les plus merveilleuses que j'ai lues de ma vie. Ce saint m'a tellement impressionné que j'en suis encore tout tremblant, si on peut dire. Oui, c'est l'un des hommes les plus impressionnants, le bienheureux Pierre Donders, D-O-N-D-E-R-S. Un apôtre en particulier des lépreux, mais pas seulement des lépreux. Et je peux dire vraiment, je le répète, qu'il m'a bouleversé jusqu'au fond de mon âme. Je connais peu de saints aussi émouvants. C'est aujourd'hui la 768e émission. Quelqu'un me demandait où j'en étais rendu. Je ne donne plus ces chiffres, je l'ai calculé aujourd'hui. 768e aujourd'hui, depuis 3 ans et demi, hein? Près de 4 ans maintenant. Le 16 septembre 1842, un jeune missionnaire hollandais de 33 ans, solide, qui vient d'être ordonné prêtre, un particulier. Il débarque d'un bateau à voile au port de Paramaribo, qui est la capitale de la Guyane hollandaise, si vous voulez, du Suriname, comme on l'appelle aujourd'hui, en Amérique du Sud, entre la Guyane anglaise et la française. Il était parti de Hollande, des Pays-Bas, le 1er août 1842, et il a donc atteint, après un mois et demi, ce pays où l'a invité à travailler Monseigneur Groff, G-R-2-O-F. Comme souvent les noms hollandais ou néerlandais ont, n'est-ce pas, deux O, comme Waterloo, cette fameuse ville où Napoléon a perdu. Et c'est Monseigneur Groff, vicaire apostolique du Suriname. Le jeune missionnaire, Pierre Donders, a été ordonné prêtre l'année précédente, le 5 juin. Et cet abbé Donders rejoint son poste en étant débordant de joie. Il l'a même écrit, il dit « J'arrive enfin où Dieu me veut. Et bien que cette terre me soit encore inconnue, je me retrouve dans la maison du Seigneur. Je me rends compte alors, écoutez bien ça, je me rends compte alors que le Seigneur est bon, et qu'il prend soin de celui qui se fie en lui et qui, pour lui, abandonne tout. » L'abbé Pierre Donders va vivre près, écoutez bien, de 45 ans, près de 45 ans, au Suriname, où il mourra à 77 ans le 14 janvier, c'est l'anniversaire aujourd'hui, 14 janvier 1887. Il y a donc plus de 100 ans. Mais sa vie exceptionnelle demeure même aujourd'hui, en ce nouveau millénaire, un exemple concret pour nous tous. C'est un exemple phénoménal qui nous permet de nous dépasser un peu nous-mêmes, peut-être de nous décourager, tellement il est fantastique. Mais non, ne nous décourageons pas, faisons ce que Dieu nous demande, tout simplement. Aujourd'hui, l'ancienne colonie hollandaise, donc, est devenue un État indépendant, puis en 1842, quand il arrive, elle relève des Pays-Bas, de la Hollande. La majeure partie du terrain est occupée par une immense forêt où foisonnent toutes sortes de bêtes sauvages et serpents venimeux. Il y a aussi beaucoup de poissons, heureusement, mais aussi des crocodiles dans de nombreux cours d'eau. Et quant à la population, c'est assez surprenant, elle est des plus cosmopolites, hein. Il y a les indigènes, les Amérindiens, il y a des créoles. Il y a aussi des Noirs, des Chinois, des Arabes, des Juifs. Et environ 2000 Européens terribles. 2000 Européens, des Anglais, des Allemands, des Français, oui, des Français et des Néerlandais. Et Monseigneur Groff, évêque, courageux, n'hésite pas à surnommer les Européens des tigres et des loups. Ce sont des esclavagistes, dit-il, de la pire espèce. Ils asservissent des milliers de Noirs dans leurs plantations de canne à sucre. D'ailleurs, il faut dire que l'esclavage ne sera aboli qu'en 1863. Alors le jeune prêtre séculier Pierre d'Anders, possède des épaules solides pour porter sa croix, car c'est absolument phénoménal. Vous ne me croirez peut-être pas dans tout ce que je vais vous raconter, mais ce sont des sources sûres. Il a été dès son enfance, d'abord, habitué à faire face aux difficultés. Il a d'abord connu les épreuves familiales. Son père, tisserand, qui s'appelait Arnaud, c'est un beau prénom, Arnaud d'Anders, qui tient à avoir des enfants et qui veut bien les éduquer, n'est-ce pas, solidement, avec une mère au foyer, a dû se marier 4 fois, imaginez. Sa première femme est décédée sans lui laisser d'enfants. Il s'est remarié, mais sa deuxième épouse meurt à son tour, et aussi les 3 enfants qu'elle lui a donnés. C'est terrible. Et là, en 3e noce, Arnaud d'Anders se s'unit à Petronille van den Breckel, qui sera la mère de Pierre, le 27 octobre 1809, et elle met au monde aussi un garçon malingre, souffre-tu, qui s'appelle Martin. À l'âge de 7 ans, notre bienheureux Pierre d'Anders perd sa maman, et le 26 février 1816, c'est le 26 février 1816 qu'il la perd. Et pour élever ses 2 fils, là, son père, Arnaud d'Anders, se remarie 4e fois. Imaginez. Très pauvre, la famille habite une maison de bois dans un faubourg de Tilbourg, dans le nord du pays. Puis Pierre, après avoir fréquenté l'école élémentaire, aide son père. Et comme lui, il exerce la profession de tisserand jusqu'en 1832, donc jusqu'à l'âge de 23 ans. Dieu, pourtant, a très tôt déposé dans son cœur le désir de devenir prêtre. Dans ses mémoires autobiographiques, cet homme exceptionnel qui est Pierre d'Anders nous signale que c'est vers l'âge de 5 ou 6 ans déjà qu'il entend l'appel du Seigneur. Et lorsque le prêtre, un jour, vient assister sa mère mourante, il pose un geste bien sympathique. Il s'empare du livre officiel de prière, là, qu'on appelle le rituel, puis il déclare « Un jour, oui, un jour, j'en aurai un comme celui-là. » Alors, pas question pour Pierre d'Anders, malheureusement, de répondre à sa vocation. Il y faut travailler, car sa famille est trop pauvre. Mais déjà, Pierre d'Anders est dévoré de zèle. Et ainsi, 2 ou 3 fois par jour, au moment des repas, il réunit en plein air les enfants des alentours pour leur enseigner ce qu'il faut croire et comment on doit vivre pour plaire à Dieu. Alors son curé est surpris, puis il permet à cet adolescent de 15-16 ans de poursuivre à l'église même cet apostolat auprès de ses petits copains qu'il écoute en silence. Et le garçon se révèle un maître, il est clair et persuasif, et les gens disent, oh, s'il pouvait étudier, ce serait le meilleur des prêtres. Mais pour le moment, il doit s'en remettre à la Providence, c'est-à-dire, la Providence, hein, vous savez ça les jeunes, ça veut dire Dieu, la sagesse de Dieu, qui est un père avec un cœur de mère, et qui saura bien venir à son secours, à un moment donné, à son Pierre. En 1828, appelé au service militaire, Pierre d'Anders se voit ajourné. Pourquoi? Il le sera encore chaque année jusqu'à ce qu'il soit, en février 1832, libéré de toute obligation. Ça va pas. Il écrit donc à son confesseur que c'est probablement providentiel tout ça, c'est le bon Dieu qui veut ça. Son confesseur, qui est curé de sa paroisse, pour lui demander de l'aider à commencer l'étude du latin. Mais c'est pendant l'octave de la Pentecôte, hein? La Pentecôte, c'est le moment où l'Esprit-Saint s'est emparé de l'Église au tout début et s'empare chaque année, comme ça nous commémorons ça, et chaque jour, si on veut, Dieu s'empare de nous dans l'Esprit-Saint. Il a alors 22 ans. Le prêtre se voit fort embarrassé, parce que repousser ce jeune, ce serait un péché, se dit-il, mais est-ce que ce serait pas commettre une imprudence que de l'envoyer dans un séminaire et de risquer de faire de cet ouvrier, qui est très travaillant, un étudiant raté? Et ce garçon a déjà 22 ans, puis de plus, il n'a jamais été bien brillant à l'école élémentaire. Mais d'accord avec le directeur du séminaire, le curé imagine alors un moyen terme. Alors Pierre va entrer comme ouvrier dans la maison, dans le séminaire, pour y remplacer un domestique. Puis durant ses heures libres, eh bien, il aura la possibilité d'étudier. Mais la solution paraît passablement bonne. Oui, mais on a oublié de préciser la répartition exacte des heures de travail puis des heures d'études. Si bien que les 6 premiers mois, Pierre d'Anders n'est qu'un simple employé. Heureusement, un arrangement a lieu finalement, et le jeune Pierre d'Anders Enfin, la chance d'aller s'asseoir sur les bancs de la classe. Mais à ce moment, les autres domestiques du séminaire le prennent pour un... On dirait ici au Québec un petit fraîchier, un présomptueux. Qui se veut plus malin que les autres? Et les élèves pensent, eux, qu'il n'est qu'un vieux fainéant, mais beaucoup plus âgé qu'eux. Il devient donc une cible facile pour tous, puis les railleries, les taquineries n'arrêtent pas. Mais Pierre Donders, lui, s'occupe pas de ça. Il conserve sa sérénité, il est toujours fervent et confiant. Il aime Dieu, il aime Dieu. Il n'envisage que le but à atteindre. Et finalement, il réussit à se gagner la faveur de tous, les professeurs, les élèves, les employés. Il y a même un témoin qui a affirmé un peu plus tard, « Nous avons admiré une âme qui, de jour en jour, n'a rien fait d'autre que de travailler avec Dieu et pour Dieu. » Alors, ses études préparatoires au grand séminaire terminées, là, le jeune Pierre Donders, ou le jeune, enfin, il est plus si jeune, mais enfin, entre le 4 octobre 1837 au grand séminaire de Erlard. Alors, on connaît déjà un peu, on a entendu parler de ses vertus. On sait aussi qu'il veut devenir missionnaire. Mais comment concilier la vocation particulière de missionnaire avec un homme, un prêtre, qui est incardiné dans un diocèse, qui appartient à un diocèse, qui appartient pas à une congrégation religieuse? Il sera prêtre séculier. Impossible de partir comme ça, dans ce temps-là. Le supérieur du séminaire propose alors à l'aspirant missionnaire d'entrer dans une congrégation religieuse qui pourrait se charger de lui puis l'envoyer en mission. Mais, écoutez bien ça, ce futur saint qui m'épate et qui m'émerveille et que je considère comme l'un des plus grands saints de l'histoire de l'Église, même s'il est inconnu, ni les jésuites, ni les rédemptoristes chez lesquels il va rentrer seulement à 57 ans, ni les franciscains ne veulent du bienheureux Pierre Donders. Heureusement, grâce au curé de Thibourg, il va bénéficier pendant son séminaire d'une bourse d'études. D'ailleurs, je fais la remarque, savez-vous que beaucoup, beaucoup de curés, de prêtres, paient comme ça les études de nombreux séminaristes dans le monde? Alors cette fois-ci, il entre en 1839 au grand séminaire de Haren. Et c'est là qu'il va rencontrer peu après Mgr Groff, dont il était question au début, là. Il n'a donc plus qu'à se préparer à partir pour le Suriname, et il le fait avec une ardeur qui édifie ses compagnons. Il y a un témoin oculaire qui dit, écoutez bien ça, « De toute ma vie, je n'ai vu une aussi belle âme, et je n'ai pu imaginer un jeune homme aussi parfait par la douceur, l'amabilité et l'obéissance. Mais c'est l'humilité qui, chez lui, dominait. » Et un des prêtres ordonné avec lui en 1841 ajoute ceci. « Ah, écoutez ça encore, c'est beau. Je ne l'ai rencontré qu'une seule fois, le jour où nous avons ensemble reçu la prêtrise. Mais l'impression de sainteté qu'il me fit ne disparaîtra jamais de ma mémoire. » Si on pouvait dire ça de tout le monde... Si on pouvait dire ça de nous. Alors voilà que le bienheureux Pierre Donders, futur rédemptoriste, fait ses premiers contacts avec les lépreux, mais c'est plus tard qu'il sera vraiment consacré aux lépreux. C'est de la capitale du Suriname, donc Paramaribo, où il arrive, que durant les 14 premières années de sa vie missionnaire, il va exercer son apostolat, comme on dit. Il va faire des randonnées à partir de ce point d'attache, de très nombreuses randonnées. D'ailleurs, peu après son arrivée, dès le 7 octobre 1842, Mgr Groff l'amène avec lui à la léproserie gouvernementale de Batavia, où il va passer plus tard une très grande partie de sa vie, au milieu d'une forêt de palmiers. Ils y arrivent par bateau le soir du 8 octobre, et leur arrivée est annoncée par 3 coups de fusil, auxquels répondent les lépreux en sonnant la cloche. Après avoir béni ces derniers, ces lépreux, le vicaire apostolique, Mgr Groff, est conduit en procession à l'église de bois où l'on chante le Notre Père. Le lendemain, c'est l'abbé Pierre Donders qui célèbre la messe, tandis que les lépreux exécutent les cantiques. Il a noté plus tard, Une émotion profonde m'a serré le cœur à la vue de cette assemblée de lépreux. Certains malades avaient perdu les doigts des pieds, d'autres ceux des mains, d'autres le nez ou les yeux. Ça me rappelle à Yaoundé un beau jeune garçon de 25 ans qui s'approche de moi alors que je sirotais quelque chose dont j'avais soif à la terrasse d'un café. Il vient vers moi pour me demander de l'argent. Il avait les mains derrière le dos. Et je lui dis, mais un garçon solide comme toi, tu ne travailles pas. Il m'a regardé avec le plus beau sourire. Il a avancé ses mains vers moi. Il n'avait pas de mains. Il était lépreux. Je n'ai pas pu m'empêcher que d'embrasser ses mains. Ce pauvre homme, mon Dieu. Le père d'Onders, l'abbé d'Onders, continue donc que d'autres n'avaient pas de nez ou de Dieu. D'autres encore avaient les jambes horriblement enflées. Quelques-uns, atteints à la langue, ne pouvaient plus parler. Tous pouvaient à peine marcher. Et en s'appuyant sur un bâton, ils s'étaient traînés à l'église. Puis il conclut, ce saint, « Non, leur maladie n'est pas une disgrâce. Comme Dieu est bon avec eux et paternel sa providence, vous direz que c'est de la folie de dire ça, écoutez bien, car pour la majeure partie d'entre eux, la maladie est l'unique moyen de salut. » Et vous allez voir pourquoi. Évidemment, qu'est-ce que ça veut dire tout ça, hein? La maladie, moyen de salut? On verra. Trois fois la semaine, se déroule pour eux un bel office. Et après la prière du soir et la récitation du rosaire, les lépreux s'acheminent le long du fleuve, précédés de la croix, et alors de la grande église, au chant des cantiques, ils se dirigent vers une petite chapelle dédiée à Marie. Marie, salut des infirmes. Libératrice des infirmes. Mère des infirmes. On sonne la cloche pour que ceux qui ne peuvent bouger puissent s'unir à la prière commune. Puis, il y a là diverses baraques. Dans ces baraques-là, environ 400 malades. Monseigneur Groff et l'abbé d'Onders restent 12 jours, jusqu'au 20 octobre, donc, 1842, à la léproserie, où, dit le bienheureux d'Onders, où le Seigneur fait de façon merveilleuse resplendir sa miséricorde. Voilà le secret. Les deux missionnaires ont réconforté ces malheureux, et lors de leur départ, ils les accompagnent au bateau, en pleurant comme des enfants abandonnés, ces pauvres lépreux. J'espère que vous irez à la messe aujourd'hui et que vous entendrez cet évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Je vous lis le début. C'est au chapitre 1, verset 40. Un lépreux vint trouver Jésus. Il tombe à ses genoux et le supplie. « Si tu le veux, tu peux me purifier, Seigneur. » Pris de pitié devant cet homme, Jésus étendit la main, le toucha et lui dit, « Je le veux, sois purifié. » À l'instant même, sa lèpre le quitta et il fut purifié. Quand on veut être purifié de notre propre lèpre, on invoque ainsi Jésus et son Esprit Saint nous purifie. Sur le fleuve, Monseigneur Groff là, désigne à son compagnon Pierre d'Onders un autre champ d'action, c'est les plantations de café, de coton et de canne à sucre où travaillent les esclaves. Écoutez ça, c'est terrible. Il existe environ 400 établissements de ce genre où 40 000, j'ai bien dit 40 000 Noirs, sont contraints de travailler sans arrêt. Ils sont fouettés par les argousins. Qu'est-ce que c'est que des argousins? Ce sont des gardiens des esclaves. La mort seule va les libérer. Ces pauvres Noirs. C'est pas facile de les approcher car les propriétaires se méfient des missionnaires catholiques qui sont des ennemis déclarés de leur immoralité puis de leur spéculation écœurante. En 1842, l'abbé Pierre d'Onders, à 32 ans, peut s'introduire seulement dans deux plantations. Et ces plantations, sur les bords du fleuve Saramacca, a justement été visité par Monseigneur Groff à son retour de Batavia, là où il y a ses lépreux. Et le séjour de l'évêque y a été bref, mais il a laissé des traces durables. C'est un très bon évêque, un courageux, comme je vous ai dit tout à l'heure. Et le propriétaire lui-même a voulu participer aux instructions. Il dit un jour ou l'autre, c'est ce qu'il dit aux deux missionnaires, « Vous finirez par les convertir tous à votre religion. » Et cela ne me déplaît pas, car bien que protestant, je vous préfère aux frères moraves. Qu'est-ce que c'est, les frères moraves? Vous savez ça, hein? C'est une sorte de secte qui vient des Hussites, hein, de Jean Hus. À partir de ce moment, le père Pierre Donders revient, l'abbé Donders revient chaque mois pour conforter dans la foi les baptisés. Il fait le voyage en barque. C'est un tronc d'arbre, évidé, tout simplement. C'est toute une barque, hein. Et il s'assit, heureusement, sous un dais de branchage pour se protéger du soleil. Et il y a deux paires de noirs musclés qui manient les rames, puis un chef qui les fait ramer ensemble, hein, à l'unisson. À l'heure des repas, l'abbé Donders tire de sa besace des provisions qu'il distribue à chacun. Et qu'est-ce qu'il fait? Il se réserve le dernier morceau de pain qu'il trempe dans l'eau du fleuve. C'est un saint. Vous allez voir, ça n'arrête pas jusqu'à la fin. Le soir, tandis que les rameurs s'étendent sous les arbres, ils s'allongent sur la quille. Il se laisse dévorer par des milliers de moustiques affamés. Il ne veut pas les tuer. Il est un peu comme les orientaux, vous savez, les bouddhistes ou les hindouistes. Une fois arrivé à l'embarcadère, il lui faut encore patauger dans les marécages de la brousse, et après quoi il atteint la plantation. Là, c'est au centre d'une grande esplanade que se trouve, disons, la direction, puis les bureaux, hein, pour l'administration. Et sur les côtés, bien, il y a les ateliers, les remises, les cabanes, qui servent d'habitation. Puis, il y a l'hôpital. Après s'être muni des autorisations indispensables, le bienheureux Pierre Donders commence par chasser du hangar qui sert de chapelle et qui est inutilisé toutes les bêtes qui y ont fait leur nid. Quoi, des bêtes qui ont fait leur nid là-dedans? Oui, des frelons, des cancrelats, des chauves-souris, les vampires, les moustiques. Et quand tout est prêt, au signal donné, les esclaves accourent, sont abrutis par le travail, les tortures et les vices aussi. On ne les traite pas en hommes, en effet. Ces esclaves sont traités en bêtes de somme et en troupeaux d'élevage. La loi interdit en effet de nouvelles importations d'esclaves, et alors on veut y parer par une reproduction à outrance. Alors on fait que c'est comme des animaux, comme un cheptel. C'est épouvantable. Les propriétaires, qui sont des égoïstes de la pire espèce, abusent d'ailleurs des enfants et des jeunes sous la menace de mutilation et de représailles. On comprend dès lors que l'accès de ces bordels immondes soit sévèrement interdit aux étrangers. Les gardiens s'opposent aux visiteurs non autorisés. Et le bienheureux Pierre Donders a à les subir lorsqu'il cherche à se faire ouvrir les portes. Mais si on le repousse, qu'est-ce qu'il fait? Il s'éloigne avec le sourire et des souhaits de prospérité. Il est très diplomate. Puis dès que possible, après avoir longuement prié, oui, il prie, il revient une fois, deux fois, et même plus, toujours avec la même bienveillance. Il cherche à amadouer ces bêtes féroces. Et c'est comme ça qu'il se concilie finalement un gardien qui s'appelle Menalda, qui est pire qu'un portier infernal. Et ce Menalda, qui prétend ne jamais plier les chines, pas même devant le diable en personne, il cède à notre missionnaire, qui manifeste la douceur de Jésus. Finalement, ce geôlier en vient non seulement à respecter, mais à aimer, à vénérer ce jeune prêtre. D'autres, pareillement, finissent par ouvrir à ce prêtre la porte de ses bagnes, de ses bordels. Il est admis en 1846 dans une troisième plantation, puis dans cinq autres entre 1847 et 49, hein, il est patient, puis de 1849 à 1862 dans 32 autres. Ah, son cœur est brûlant et ouvre les portes, si bien que le nombre des baptisés augmente sans cesse. Ça passe de 1145 à 1851. Ça passe finalement à 3000 en 1866, donc plus du double en une dizaine d'années. On la prière, puis une solide instruction religieuse donnée aux Noirs. C'est ça qui provoque ce bond en avant. Et l'abbé Donders use avec les esclaves d'une grande patience et de beaucoup de simplicité. Il les entretient sur leurs devoirs d'État et sur les dispositions nécessaires pour recevoir le baptême et les sacrements. Puis il se fait aider de catéchistes qu'il forme lui-même sérieusement, mais à qui il demande surtout de prier et de faire prier. Alors, malgré ces petits voyages, toujours pour aider les pauvres, là, dans l'arrière-pays, Le père d'Anders est retenu une bonne partie de l'année à Paramaribo, là, la capitale, où il doit s'occuper des 2000 catholiques de la capitale. Il les utilise à toutes sortes de travaux. Il les aide à prendre, à s'épanouir. Il les évangélise par ses sermons, des causeries simples, hein, claires. Il parle clairement. C'est illustré d'exemples vécus. Pas des théories, non. Des exemples vécus. Il insiste tout particulièrement sur le péché, dont on ne parle plus. Et qui existe, le péché? C'est la blessure qu'on fait à son âme, en étant égoïste et en n'aimant pas Dieu qui nous aime tellement et qui veut nous habiter et jaillir en nous comme une source d'eau vive. La Trinité en nous, c'est une source d'eau vive. Alors, il parle du péché, puis des conséquences, hein, qui ont bien l'air d'être des châtiments qui viennent de Dieu, mais ce sont des conséquences du péché. Dieu ne nous châtie pas méchamment comme ça, hein, à pas mon avis en tous les cas. Il insiste aussi, le bienheureux Donder, sur la prière. C'est très important, sur la dévotion à la Sainte Vierge aussi. Puis il catéchise aussi, évidemment, les enfants à l'école. Puis aux gens qu'il rencontre dans les rues, et comme ça, il répète, il faut prier, il faut prier, oui, il faut prier. Quel original, quel homme merveilleux. Ou encore, il leur dit comme ça, tout doucement, faites la volonté de Dieu, et vous aurez ce que vous voulez. Puis il évangélise comme ça, dans la conversation, dans la rue. Et sa meilleure prédication, c'est quoi? Vous le devinez, c'est sa vie exemplaire, qui est toute consacrée à Dieu puis au prochain. Et on le voit de bonne heure à l'église le matin, agenouillé devant l'autel. Je me souviens d'être entré dans une église très tôt le matin, en 1950, en France, puis il y avait un prêtre agenouillé devant l'autel, j'étais stupéfait. Et j'ai donné une retraite dans une petite ville près de Québec. Et chaque matin, les deux prêtres, avec une religieuse, étaient devant Saint-Sacrement, très près de l'autel majeur. Ils priaient ensemble. Très tôt le matin. J'étais surpris, j'étais entré à l'église, je pensais être seul. Et ils priaient. Ça se fait au Québec? À 7 heures, donc, ils célèbrent la messe, le bienheureux d'Anders. Puis ils catéchisent les enfants et les adultes. L'après-midi, lorsque le soleil brûlant des saisons sèches ou les pluies torrentielles des saisons humides empêchent toute activité au dehors, bien, qu'est-ce qu'il fait? Il s'en va assister les malades. Il visite ceux qui souffrent. Toujours. Par sa charité, il est devenu le père de tout le monde. Il distribue aux pauvres tout ce qu'il a. La nourriture, les vêtements, son argent. Et quand il n'a plus rien, il a des idées, des stratagèmes. Alors il va voir son vicaire apostolique pour lui faire ouvrir sa bourse. Alors, Monseigneur Grotte lui dit un jour, mon cher, vous ne faites que donner, donner. Comment ferez-vous quand je serai mort? Et le bienheureux Pierre d'Anders a une réponse qui est digne d'un saint. Écoutez bien ça. Il dit à son évêque, oh, Dieu ne meurt jamais. En d'autres termes, Dieu s'occupe toujours des pauvres. Il trouve toujours le moyen. Toujours. Mais c'est à nous de l'aider, à nous d'ouvrir notre cœur comme lui l'a ouvert d'une façon absolument fantastique. Il est inimitable, disons, mais on peut l'imiter un petit peu. Un jour, pour secourir une famille dans le besoin, le bienheureux Pierre d'Anders n'a plus que sa montre. Alors, il va donc trouver un brocanteur, une pawn shop si vous voulez, un juif. Il la lui vend pour emporter le prix aux pauvres. Et écoutez bien ça, le juif est ému. Ému par ce saint, et le juif veut lui rendre la montre. Des lépreux, notables pour la plupart, qui sont protégés ou cachés en ville, et qu'on n'amène pas à Batavia, ont échappé à l'obligation du séjour à la léproserie de Batavia. Les gens les évitent avec horreur, évidemment, mais le missionnaire les traite en amis. Il a la joie de baptiser 6 d'entre eux, puis d'en préparer 6 autres au baptême. Et quant aux petites gens, là, les artisans, les commerçants, qu'ils soient blancs ou de couleur, ils assiègent le confessionnal de l'abbé d'Anders, qui y passe parfois de 6 à 7 heures d'affilée, les veilles de fête. Ses prédications les émeuvent jusqu'aux larmes. Mais surtout, il fait l'admiration de Monseigneur Groff. Monseigneur Groff, qui a un cœur d'évêque, comme la plupart des évêques, j'imagine, il dit « Plaise au bon Dieu de me susciter au plus vite un autre père d'Anders. Quel secours et quel réconfort pour moi. Hein? » J'imagine que tous les évêques du monde entier voudraient avoir des saints dans leur diocèse. En 1843 arrive une épidémie de choléra. Mais le choléra révèle la fragilité de la petite mission catholique. Un des missionnaires est mort, le père Janssen. De surcroît, Monseigneur Groff est nommé peu après vicaire apostolique de Java. C'est triste, il est remplacé par Monseigneur Sheppers, un rédempteuriste. Et pourtant, que d'espérance pour la jeune communauté chrétienne. Hein? Le nouveau gouverneur de la colonie se montre plein de bienveillance pour les missionnaires catholiques. Il leur accorde la pleine liberté de ministère. Et ainsi, ils peuvent avoir accès deux fois par mois au fort de Nouvelle-Amsterdam et célébrer la messe en présence des soldats puis des esclaves. Vous savez que la Hollande, à l'époque, était un pays très protestant. Il y a eu énormément de conversions au catholicisme il y a à peu près 30 ans. C'est extraordinaire. Ou un peu plus même. Mais en voyant aussi le petit nombre des missionnaires, Pierre Donders lance ce cri douloureux à ses confrères de Hollande. Écoutez bien ça. Si vous sentez le moindrement une vocation, bouchez-vous les oreilles, parce que si vous entendez ça et vous ne répondez pas après... Ah, ce saint magnifique! Prêtre du Seigneur, nous lançons notre appel pour l'amour de Dieu, pour l'amour de ce Jésus qui un jour a laissé le trône de son Père pour nous sauver. Nous qui étions perdus, nous vous en conjurons, venez à notre aide. Au fil des années, ses appels sont de plus en plus insistants, à mesure que pèsent davantage sur ses épaules les travaux à Paramaribo et dans l'arrière-pays. Il souffre surtout de solitude morale, car sa voix ne trouve pas d'écho dans la mère patrie. Il ne se décourage pas, cependant. Mais ce que c'est que de se sentir seul? Et en 1851, voici maintenant une épidémie de fièvre jaune, pire encore que le choléra, et là encore, il se dépense sans compter. Mais cette fois, il est atteint par la maladie, puis il passe 4 semaines entre la vie et la mort. Oh, il souffre atrocement. Et pourtant, encore vacillant et sans force, il reprend son travail malgré les conseils des médecins. Et partout, là, les catholiques, les protestants le vénèrent comme un saint pour la simplicité puis la ferveur de son zèle. Or, un jour de 1856, Monseigneur Sheppers demande aux divers missionnaires « Qui d'entre vous voudrait aller de bon cœur à la léproserie de Batavia? » Ça y est, il va y aller. Il dit « Moi, Monseigneur. » C'est ce qu'il répond tout de suite. Il a 46 ans. Parce que vivre continuellement à la léproserie, c'est pas une tâche facile. Oh, en 1849, quelques années avant, le père Heinrich y a été assassiné par un noir auquel il reprochait sa conduite scandaleuse. D'autres prêtres aussi y ont été envoyés, mais ils y sont restés une ou deux années tout au plus. C'était pas possible. Ils n'ont pas pu s'habituer à la vue de telle misère. C'est trop dur. Le dernier, d'autre part, qui était de tempérament coléreux, a fait enrager un peu tout le monde, puis il a fallu le rappeler. Alors, l'abbé Pierre Donders, lui, écoutez bien, va y passer 28 années. 28 ans, de 1856 à 1883 tout d'abord, avec 6 mois d'absence pour faire son noviciat de rédempteuriste, quand il va rentrer chez rédempteuriste à 57 ans, en 1867. Puis il y revient en 1885 jusqu'à sa mort en 1887, le 14 janvier. Toujours sur la brèche, sans s'épargner, il se fout de la contagion. Il va faire preuve d'une patience puis d'un amour fantastique pour faire aimer Dieu, faire aimer Dieu au milieu de ses abandonnés. Il ne pense qu'à ça. Ce que ce prêtre a fait pour les lépreux, dit-on, nul autre au monde n'aurait pu le faire. Hein? C'est ce qu'affirme en 1870 un vieux soldat en garnison au Suriname, un vieux soldat. Vous savez, les laïcs Comme les prêtres et n'importe qui, même les incroyants, sont impressionnés par les saints. Un jour, dit ce vieux soldat, je lui ai demandé de me permettre de jeter un coup d'œil dans les baraques. Il m'a répondu « Oh non, jeune homme. Non, vous ne pourriez supporter une telle horreur. » Mais lui, il sait tout ça par amour de Dieu. Il fait tout ça par amour de Dieu. Puis ses frères, hein, il sait surmonter. Jour après jour et pendant plus du tiers de son existence, ce spectacle insoutenable. Et de temps à autre, des bateaux remontent le cours du fleuve Kopname. Et ils sont chargés d'esclaves malades, réduits par la lèpre à des états épouvantables. Et près de la léproserie, là, ces bateaux déchargent des tas de chair humaine putréfiée. Cette chair, pourtant, est vivante. Elle appartient encore à des êtres vivants, oui. Je m'excuse de la description, mais c'est ça. Et qui hurle de désespoir à la vue de ce lieu de réclusion où ils ne pourront jamais sortir. Mais soudain, ces malheureux s'apaisent en voyant apparaître le visage blafard et décharné du bienheureux Pierre Donders. Beaucoup de bonté dans ses yeux gris clair, sur ses lèvres le sourire, dans sa bouche des encouragements. Il conduit alors à la cabane les nouveaux arrivants. Il apporte ensuite des gâteaux puis des rafraîchissements. Oh, il les invite à se réjouir. Car désormais, dit-il, nous sommes amis. Comme Jésus, Jésus dit « Nous sommes amis ». Il est comme Jésus, tellement, il est merveilleux. Puis il le leur montre bien, hein. Oui, il est l'ami des lépreux. L'abbé Donders, ou le père Donders, chaque jour visite les malades. Et à la place des infirmiers, qui font défaut, il les soigne, il nettoie les plaies purulentes. Il les entoure de bandages. Et il administre des remèdes, il fait manger ceux qui sont sans main. Alors j'ai vu comme ça, près de Yaoundé, une sœur française, dominicaine, dans son beau costume de dominicaine. Elle était médecin. Elle faisait ça à des lépreux. Je l'ai vu de mes yeux vus. Quand on lui a demandé depuis combien de temps elle faisait ça, elle a souri puis elle a dit « depuis 29 ans ». C'est tellement extraordinaire, hein. Que l'Église est belle. Alors, Pierre Donders va pour ses lépreux couper du bois en forêt, puis il le rapporte sur ses épaules, il refait les couchettes dégoûtantes, il lave la vaisselle, il jette dehors les déchets, il tire l'eau du puits. On le prévient, vous finirez en agissant ainsi par devenir lépreux. Il réplique, « Non, je ne cours aucun danger. » Il a dû recevoir une confidence de Jésus. Et il continue. Rien n'échappe à son œil vigilant. Il sait qu'émander pour célébrer auprès des autorités gouvernementales. C'est comme ça qu'il obtient pour eux une nourriture meilleure et plus abondante et des couchettes plus commodes. Pour lui, la terre battue des cabanes qui est recouverte, qui est de terre, là, c'est tout simplement de la terre battue, il les recouvre d'un plancher et... Les plus besogneux reçoivent de temps à autre un secours et les morts reçoivent un cercueil. Et puis, à partir de la charité corporelle, bien, il essaie d'élever spirituellement les âmes de ces gens abandonnés. Il les invite à venir à la messe et aux offices, puis il les instruit. Hein. Et par le chant, bien, il attire les Noirs en particulier qui aiment tellement chanter. Malheureusement, il lui faut lutter contre l'idolâtrie. Oh mon Dieu, qui aurait à lutter ici à Montréal contre l'idolâtrie. Nous sommes devenus des idolâtres, une grande partie d'entre nous. Hein. Il doit lutter aussi contre l'intempérance. Oh mon Dieu, il y en a aussi à Montréal. Hein. Peut-être à Sherbrooke aussi, je suis moins au courant. Puis l'immoralité, ça existe partout. De l'alcool est introduit clandestinement, hein, d'où du tapage, des rixes qu'il faut apaiser. Puis d'autre part... Ces Noirs sont habitués à la polygamie, hein. Ils considèrent, eux autres, comme sans importance, l'adultère et le concubinage. Alors, pour arracher ces pauvres Noirs au péché, Pierre Donders fait à trois reprises donner une grande retraite, et en ces occasions, il invite chacun à faire pénitence. Et il dort même le sol, lui, la tête appuyée sur une poutre. Il prie sans cesse. Est-ce que c'est un fou? Oui. Oui, c'est un fou. Oui, le bienheureux Pierre Donders, je peux vous l'assurer, c'est un fou. C'est un fou de Dieu. C'est un fou de l'Évangile. C'est un fou de l'Évangile. Et vous verrez, c'est pas tout. Pierre d'Anders, il vient tous, l'estime, tout le monde l'aime, les catholiques, les protestants, les juifs, les soldats, les personnages officiels. Oui, chacun le considère comme un saint. Il jouit parmi les lépreux d'un immense ascendant, on le voit bien lorsqu'en 1873, le gouverneur de la colonie veut soustraire au danger de la contagion là, les enfants des lépreux. Alors, il utilise la force, hein, on cherche à les arracher à leurs parents. C'est une révolution dans la léproserie, personne ne veut abandonner ses enfants. Alors le père d'Anders demande alors aux soldats de se retirer, puis il parle à la foule menaçante, il dit « Si vous aimez vos enfants, ne les laissez pas mourir de la lèpre. » Et ce simple argument, mais sa sainteté aussi, transforme les gens. On voit ce moment les mères se séparer de leurs petits. Mais il y a seul un Chinois qui s'enfuit avec son enfant et est décidé à le tuer plutôt que de s'en débarrasser. Mais le père d'Anders le rattrape puis il réussit rapidement à le convaincre. À la mort du vicaire apostolique du Suriname en 1863, plus que jamais on se rend compte que la mission catholique du Suriname ne deviendra florissante que si elle est confiée à une congrégation religieuse. Alors, d'autre part, l'abolition de l'esclavage, cette même année, en 1863, élargit le champ et les possibilités d'évangélisation. Alors, en 1865, donc 2 ans plus tard, Rome confie la colonie hollandaise à la province néerlandaise des Rédempteuristes, et c'est l'un d'eux, comme je vous ai dit, Mgr Swinkels, qui est consacré évêque. Les missionnaires qui ont précédé les religieux peuvent choisir entre 3 options. On n'est pas trop sévère. On leur dit qu'ils peuvent rester à leur poste. Ou bien, s'ils veulent retourner à leur patrie, seront remplacés. Ou bien s'agréger, c'est une autre solution, c'est à la congrégation de Saint-Alphonse de Ligorie, c'est-à-dire les rédempteuristes. Je vous ai déjà parlé de Saint-Alphonse de Ligorie, ce grand saint, avocat et fondateur des rédempteuristes. Eh bien, le père d'Anders choisit cette dernière solution, et après 6 mois de noviciat, comme je vous l'ai laissé entendre, là, à 57 ans, en 1867, il fait profession à Paramaribo. Il ne cache pas sa joie d'être admis à la vie religieuse, enfin, il y avait rêvé quand il était jeune, et aidé dans son apostolat chez les lépreux de Batavia, là, il lui est alors possible de se lancer dans un nouveau champ d'évangélisation, puis d'entreprendre cette fois-ci la conversion des Amérindiens des environs. Il commence avec les Arhuacs, qui habite près de la côte. Il obtient de bons résultats. Il s'intéresse ensuite aux Waros, une tribu qui, comme la précédente, par la droiture de ses mœurs, accepte facilement la prédication de l'Évangile. Et là, le bienheureux Pierre d'Anders a beaucoup plus de fil à retordre avec les Caribes. Pourquoi? Parce qu'ils vivent encore à l'état sauvage, puis ce sont des cannibales. Quelques années auparavant, d'ailleurs, ils ont massacré des missionnaires catholiques sur les rives du Maroni, probablement pour les manger. Alors, il faut d'abord les rejoindre, ces gens, au milieu des forêts, des marécages, et c'est dangereux. Il faut les instruire ensuite. Et là, ils se mettent à écouter sans difficulté parler de Dieu et du Christ rédempteur. Mais lorsque les missionnaires exposent la morale chrétienne, ils deviennent tout de suite sourds, habitués qu'ils sont à la polygamie et aux vices, hein. Ça ressemble beaucoup à nos gens aujourd'hui en Occident qui sont sourds à ça. Ils veulent pas entendre. Ils sont bien prêts à croire au Christ, mais pourvu qu'ils les achalent pas trop. Et avec eux, le père d'Anders doit user d'une longue patience pour les conquérir à la foi. Oui, plusieurs fois, il est menacé de mort. Et ses grands ennemis sont les sorciers. Le bienheureux Pierre d'Anders arrive, cependant, à convertir plusieurs sorciers, d'autres les imitent, et aussi à la mort du père, un de ses collaborateurs ose déclarer, en cette région, presque tous les Amérindiens ont embrassé la foi. Hein? C'est fantastique. Ça nous prendrait un de ces Pierre d'Anders à Montréal pour tous nous convertir. Un autre peut-être à Sherbrooke. Alors le bienheureux Pierre d'Anders s'attaque encore à la conversion des Noirs des Bois, fils d'esclaves qui ont fui dans les forêts pour se soustraire à leur sort inhumain. Ils vivent en de petits villages à travers la forêt vierge. Ils adorent les arbres et les serpents, puis ils méconnaissent totalement les lois morales. Mais il les rejoint, puis il leur prêche l'Évangile. Oh, il récolte toutefois Que de bien maigres résultats, le pauvre. En novembre 1885, son supérieur le supplie de retourner à Batavia auprès des lépreux pour remplacer son successeur reparti en Hollande et qui n'en pouvait plus. Et voilà donc qu'il va finir sa vie au milieu de ses lépreux. Et les lépreux l'accueillent à genoux. Quant à lui, au lieu de leur en vouloir, il reprend simplement son travail parmi eux, tout en continuant son apostolat auprès des Noirs et des Amérindiens. Mais voici qu'en décembre 1886, il est atteint d'une grave néphrite, c'est une inflammation du rein. Et dans la nuit du 5 au 6 janvier 1887, il réclame les derniers sacrements qui lui sont donnés par un rédemptoriste lépreux, oui, le père Bacher. Et le 12 janvier, le bienheureux Pierre Donders déclare au docteur « Soyez sans crainte, encore un peu de patience. Hein. Vendredi, vers les 3 heures de l'après-midi, je mourrai. » Mais il a prophétisé juste et il expire le vendredi 14 janvier, à 3h30 de l'après-midi, à 77 ans. Tous les lépreux le pleurent, même ceux qui, quelques années auparavant, ont voulu l'éloigner de Batavia. Alors, il est enseveli dans leur cimetière. Son corps y reste jusqu'en 1900. On l'inhume à Nord, derrière la sacristie de la cathédrale de Paramaribo. Puis en 1921, dans cette même église, on le met au pied de l'autel de Saint-Joseph, le Père de Jésus. Et aussitôt après sa mort, le provincial hollandais des rédemptoristes, qui, convaincu de sa sainteté, recueille sur son confrère toute une foule de témoignages. Alors, en 1900, commence le procès sur les vertus du père Pierre Donders, rédemptoriste, à la fois à Paramaribo, puis à Bois-le-Duc, son diocèse d'origine en Hollande. Et les grâces et les prodiges se multiplient par son intercession. Puis ainsi, en 1900, en juillet, une fillette de 8 ans, qui près de la mort, est guérie totalement en quelques minutes. Comment ça? On a tout simplement placé entre ses mains une image représentant le père Donders. Puis on l'a invoqué, évidemment. C'est pas de la magie. En août 1900, une femme de 30 ans, courbée depuis 1 an et souffrant atrocement, se voit libérée soudain de ses maux, à la suite d'une neuvaine à ce grand apôtre des lépreux. Et finalement, l'héroïcité de ce grand serviteur de Dieu, de ce grand saint, à mon avis, est proclamée. Le jour de l'Annonciation, le 25 mars 1945, puis Jean-Paul II le béatifie le 23 mai 1982. À tous, ce nouveau bienheureux peut être proposé, il me semble, comme un exemple à ceux qui veulent aider Dieu à libérer les âmes. Mais cette libération n'est efficacement obtenue que si on prie, si on se discipline. Je dirais comme les champions du sport le font pour atteindre une médaille qui sert à rien. Mais les saints atteignent à bien d'autres choses. Et si on veut bien se dévouer totalement, en étant pris par l'Esprit Saint qui est un esprit de feu, voilà un modèle à prier, à fréquenter. Le bienheureux Pierre Donders, D-O-N-D-E-R-S, je me suis inspiré très vaguement d'un texte de Jean Ladame paru aux éditions Risiac à partir d'un livre de Nicola Ferrante, l'Apostolo dei Librosi, Beato Pietro Donders, paru à Rome en 1982.